Ah, je veux recevoir en pleine figure. C'est au pénible que la Providence nous envoie. Oh, merci. Oh, merci. Oh. C'est là-bas qu'il pleut.
Rêverie se poursuive avec assez de constance pour donner une œuvre écrite, nous dit Bachelard, il faut qu'elle trouve sa matière. Il faut qu'un élément matériel lui donne sa propre substance, sa poétique spécifique. C'est donc pour donner corps à la vie rêvée de Gaston Bachelard que nous explorons cette semaine les quatre éléments qui donnent matière à rêver, le feu, l'air, l'eau et la terre. L'équipe des Nouveaux Chemins se joint à moi pour vous saluer. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, ainsi que Nicolas Berger, cette semaine à la réalisation, accompagnée d'Élise Leu, aujourd'hui à ses côtés à la prise de son, ainsi que de celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces deux minutes papillon. J'ai nommé Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à vous Géraldine.
Bonjour Adèle Van Rett. Tout à l'heure, je parlerai de Nicolas Grimaldi et de son essai sur la psychologie de Proust. Ça s'appelle Le baiser du soir et c'est paru aux éditions PUF.
Le baiser du soir qui aura lieu à 10h51. Après la psychanalyse du feu, lundi, en compagnie de Vincent Bontemps, et l'air et les songes et la musique, avec Marie-Pierre Lassus, hier mardi, et avant la terre et les rêveries de la volonté et du repos, demain, en compagnie de Julien Lamy, c'est aujourd'hui Jean-Philippe Pierron, qui est philosophe, doyen de la faculté de philosophie de l'université Jean Moulin de Lyon, qui vient vous proposer sa rêverie autour de l'eau profonde chez Gaston Bachelard. Je suis né dans un pays de ruisseaux et de rivières, dans un coin de la Champagne vallonnée, dans le Valage, ainsi nommé à cause du grand nombre de ses vallons. La plus belle des demeures serait pour moi au creux d'un vallon, au bord d'une eau vive, dans l'ombre courte des saules et des osières, et quand octobre viendrait, avec ses brumes sur la rivière. Mon plaisir est encore d'accompagner le ruisseau, de marcher le long des berges, dans le bon sens, dans le sens de l'eau qui coule, de l'eau qui mène la vie ailleurs, au village voisin. Mon ailleurs ne va pas plus loin. J'avais presque 30 ans quand j'ai vu l'océan pour la première fois. Aussi, dans ce livre, je parlerai mal de la mer. J'en parlerai indirectement en écoutant ce qu'en disent les livres des poètes. J'en parlerai en restant sous l'influence des poncifs scolaires relatifs à l'infini. En ce qui touche ma rêverie, ce n'est pas l'infini que je trouve dans les eaux, c'est la profondeur. En rêvant près de la rivière, j'ai voué mon imagination à l'eau verte et claire, à l'eau qui verdit les prés. Je ne puis m'asseoir près d'un ruisseau sans tomber dans une rêverie profonde, sans revoir mon bonheur. Il n'est pas nécessaire que ce soit le ruisseau de chez nous, l'eau de chez nous. L'eau anonyme, c'est tous mes secrets. Le même souvenir sort de toutes les fontaines. Jean-Philippe Pierron, bonjour à vous.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous recevoir sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Je l'ai dit, vous êtes philosophe et doyen de la faculté de l'Université Jean Moulin de Lyon. Vous êtes spécialiste de Bachelard, auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages, notamment les rêveries de Gaston Bachelard au Petit Platon, cette merveilleuse collection qui s'adresse aux enfants, mais pas seulement, qui est illustrée. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les puissances de l'imagination », publié aux éditions du Cerf. Et vous êtes titulaire d'une chaire industrielle, rationalité, usage et imaginaire de l'eau. Voilà qui est fort à propos pour cette émission consacrée à Louche et Bachelard. Je viens de lire le début de l'ouvrage « L'eau et les rêves » 1942. On y entend d'emblée la dimension biographique que Bachelard veut donner à cette réflexion, à cette rêverie sur l'eau. Est-ce à dire qu'il y a un lien particulièrement intime qui lie Bachelard à l'eau plus qu'aux autres éléments ?
Alors, on pourrait effectivement le lire du point de vue biographique en disant, voilà, cet homme né en Champagne nous rappelle en fait le territoire sur lequel il a commencé et exploré ses premières manières de vivre. Mais au-delà, enfin, et en même temps en fait que la question de la biographie, je crois que déjà ce texte à sa façon dit, c'est que nos biographies sont un peu des éco-biographies d'une certaine façon. C'est-à-dire que le rapport que nous entretenons à un milieu, c'est toujours un rapport à des textures, à des matières, à une épaisseur matérielle en fait dont il va chercher avec le biais des images en fait de tonaliser en fait la qualité. Et donc quand Bachelard parle ce pays qu'il appelle le Valage, donc ce pays des eaux vives et des rivières, en fait ce qu'il dit d'entrée de jeu, c'est qu'au fond habiter pour l'humain, c'est pas habiter l'univers en général, mais c'est toujours ce qu'il appelle lui une cosmicité intime, hein, ou encore un milieu particulier. Au fond, c'est pas le philosophe Bachelard de l'être là au sens heideggerien du thème, hein, c'est plutôt le philosophe de l'ici. C'est-à-dire en fait d'un lieu spécifique caractérisé notamment par ce qui le poétise et ici singulièrement alors, des matières et plus particulièrement encore l'eau. Et donc de ce point de vue effectivement lorsque Bachelard biographe, c'est celui qui nous dit effectivement que connaître un milieu c'est pas simplement le reconnaître comment dire rationnellement, c'est aussi l'éprouver intimement dans au fond dans des images qui approfondissent notre être à ce milieu ou à cet espace disons.
Ce qui veut dire aussi qu'en proposant une réflexion, une rêverie sur l'eau chez Bachelard, l'un va souvent de pair avec l'autre, il va non seulement observer l'eau, la décrire, sa texture, sa matière, sa profondeur, sa différente manière de se mouvoir, le rythme avec lequel l'eau peut couler. Mais il va aussi puiser dans ses souvenirs. Ça veut dire que d'emblée, il dit quand même que l'eau dont il va parler est une eau qui a une résonance poétique et intime. Qui n'est pas simplement un phénomène physique.
Voilà, c'est ça. C'est que ce qui est déroutant finalement et à la fois à la fois attachant et plus qu'attachant en fait, puissant dans le geste que fait Bachelard avec ce texte et déjà avec le précédent sur la psychanalyse du feu, c'est que effectivement il retrouve en fait les éléments non pas simplement comme des molécules de chimiste, hein, il les découvre en fait dans leur profondeur presque ontologique. Et donc effectivement, ce que fait Bachelard avec l'eau, c'est pas ici la traiter en concept, en chimiste, hein, parce qu'effectivement on peut l'analyser à la manière d'un Lavoisier, et lui est un spécialiste de chimie, donc il sait que de l'eau on peut en parler dans le langage qui sépare, qui découpe, qui analyse, enfin celui de, ben, bref, l'eau du tableau périodique des éléments, si on veut, l'eau H2O, hein, pour faire court, mais celle qui l'intéresse ici, c'est pas cette eau-là, c'est effectivement cette eau qui relève d'une biographie, mais pas uniquement au sens psychologique du terme. Je crois que une des erreurs en fait qu'on ferait sans doute, c'est de croire que lorsque Bachelard se livre à ce qu'on pourrait juger une forme d'impudeur en parlant ainsi de son rapport au milieu, en se livrant ainsi, il ne veut pas simplement nous raconter son histoire, mais veut nous montrer comment à travers les images qu'il habite d'une certaine façon, eh bien se décrit une grammaire pour raconter, élaborer, explorer notre être au monde ou l'ici du monde. Donc il y a une géopoétique. Donc il va au-delà d'une psychologie, ce qui explique pourquoi justement il choisit d'écrire ce livre intitulé précisément L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière. C'est plus, il aurait pu faire une psychanalyse de l'eau, comme il a pu faire une psychanalyse.
Mais il dit qu'il n'a pas retenu ce titre psychanalyse de l'eau parce qu'il a choisi un titre plus vague. L'eau et les rêves, c'est une obligation de la sincérité, dit-il.
Tout à fait. Voilà, ouais. C'est ça. C'est-à-dire et ça va être ce qui va se caractériser son parcours intellectuel autour de la question des images, c'est que parce que très rapidement, en fait, le discours psychanalytique de l'image, qui est très intéressant, a pour lui un défaut qui est de réduire très vite l'image à une dimension symptomatique, voire pathologique. Et donc l'image pour Bachelard va au-delà en fait de cette dimension justement pathologique parce qu'elle est finalement une sorte de connecteur symbolique qui articule mon expérience de sujet humain avec des milieux. Et donc plus ça va aller, si on peut dire, et donc avec la suite des autres ouvrages, jusqu'à finir sur une poétique de la rêverie. Donc bref, plus le travail en fait de Bachelard sur le terrain des images va avancer, plus celui-ci en fait va se libérer en fait du langage explicatif de l'image, donc qui renvoie l'image à des théorisations, des rationalisations qui l'ont vertu. Hein. Il y a une dimension, enfin il s'agit pas de contester celle-ci, mais qui ont une limite. Elles perdent justement ce qu'il appelle lui la portée approfondissante ou ontologique de l'image. Ça veut dire aussi que effectivement quand il rêve l'eau, Bachelard n'est pas celui de la rêverie superficielle, comme il le dit en ouvrant d'ailleurs l'ouvrage. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est pas simplement l'eau qui nous distrait, par le caractère pittoresque qu'elle peut avoir, que ce soit la grande cascade ou que ce soit, le jet d'eau. Ce qui l'intéresse, donc, c'est pas donc cette dimension qu'il appelle une eau, qui nous séduit par le jeu des formes et qui, pour une part, là aussi, est intéressante. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est cette eau, effectivement, dont on veut rendre compte parce que sincèrement, elle, lorsqu'elle émerge, elle nous dit quelque chose de notre propre émergence. Et je crois que c'est cette connaissance, si on peut oser reprendre ce mot, enfin, donc cette connaissance de moi et du milieu, donc ici du sujet et de l'eau, en fait, que je cherche à traquer, si je puis dire, Bachelard.
Écoutons-le décrire cette eau. Alors c'est dans le chapitre les eaux composées, puisqu'il commence par opposer les eaux claires, les eaux printanières, les eaux courantes, aux eaux profondes, dormantes, mortes même, mélancoliques. Et puis il aborde ensuite la thématique des eaux composées, où vous allez entendre, il décrit d'abord la forme même de l'eau qui protéiforme justement épouse chaque texture qu'elle traverse, et en même temps il essaie de s'interroger sur le rapport entre cette eau-là et une approche scientifique, disons, de l'eau. Écoutons-le.
L'eau est l'élément le plus favorable pour illustrer les thèmes de combinaison des puissances. Elle assimile tant de substances, elle tire à elle tant d'essence, elle reçoit avec égale facilité les matières contraires, le sucre et le sel. Elle s'imprègne de toutes les couleurs, de toutes les saveurs, de toutes les odeurs. On comprend donc que le phénomène de la dissolution de solides dans l'eau soit un des principaux phénomènes de cette chimie naïve qui reste la chimie du sens commun et qui, avec un peu de rêve, est la chimie des poètes. Aussi, le spectateur qui aime contempler la combinaison des diverses matières est-il toujours émerveillé quand il rencontre des liquides qui ne se mélangent pas. C'est que pour la rêverie matérialisante, tous les liquides sont des eaux. Tout ce qui coule est de l'eau. L'eau est l'unique élément liquide. La liquidité est précisément le caractère élémentaire de l'eau. Un chimiste aussi prudent que Malouin dit encore au XVIIIe siècle « L'eau est le liquide le plus parfait. C'est d'elle que les autres liqueurs tiennent leur fluidité. » Affirmation sans preuve, qui montre bien que la rêverie pré-scientifique suit la pente de la rêverie naturelle, de la rêverie enfantine. Comment, par exemple, l'enfant n'admirerait-il pas le miracle de la veilleuse ? L'huile flotte. L'huile, qui pourtant est épaisse. Et puis, n'est-elle pas l'eau à brûler ? Tous les mystères s'accumulent autour d'une chose étonnante. Et la rêverie s'étend dans toutes les directions dès qu'elle a trouvé un essor.
Ce que je vais te dire, je m'en souviens pas vraiment moi-même, mais je sais que ma maman me l'a raconté. Quand j'étais toute petite, je suis tombée dans une rivière. Le temps a passé, ils l'ont remblayée, ils ont mis des immeubles dessus. Mais il y a une chose dont je me souviens. Ça vient de me revenir. Cette rivière, c'était là. La rivière Kohaku. Ton vrai nom, c'est Kohaku, comme la rivière.
De m'avoir sauvé. Sans toi, mon vrai nom serait devenu un vieux souvenir enfoui au fond de moi.
Je t'ai vraiment sauvé ?
Je suis l'esprit de la rivière Kohaku.
L'esprit de la rivière, ça fait penser à un dieu.
Mes souvenirs me reviennent à présent. Comment aurais-je pu oublier le moment où tu es tombé au fond de moi ? Tu te penchais pour repêcher ta chaussure.
Oui, et tu m'as emmené dans tes bras vers le gué pour que je puisse reprendre pied. Oh, quelle joie !
Esprit de la rivière, es-tu là ? C'était un extrait du film Le voyage de Chihiro de Miyazaki qui date de 2001, qui raconte l'histoire de cette petite fille qui va se rendre en famille dans une nouvelle maison et entre dans le monde des esprits. Et puis finalement, ses parents vont se changer en porc. Une sorcière va les transformer en porc. Et elle va tout le film raconte le récit où elle essaye de retrouver ses parents. Et là, elle fait la rencontre avec l'esprit de la rivière qui lui parle, qu'elle vient de libérer. C'est très intéressant parce qu'on a ici cette synthèse entre les souvenirs même de la petite fille et cette rivière qui s'anime. Le texte de Bachelard qu'on entendait avant, interprété brillamment, je dois dire, par Georges Clès, parlait de cet enfant qui admirait le miracle de la veilleuse quand l'huile s'allume dans l'eau. Et tous les mystères, disait-il, s'accumulent autour d'une chose étonnante et la rêverie s'étend dans toutes les directions dès qu'elle a trouvé un essor. C'est une question qu'on pourrait poser à Bachelard, Jean-Philippe Hiron. Dans quelle mesure est-ce que le récit qu'il fait de l'eau, à partir de ses souvenirs, de cette poétique de l'eau, parfois tendrait à une forme d'anthropomorphisme. Est-ce que chez lui, comme dans Le voyage de Chihiro, l'eau pourrait quasiment parler, pourrait s'humaniser ?
D'une certaine façon, on pourrait dire oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez étonnant dans le texte qui a été lu, c'est que finalement, il y a deux choses que dit Bachelard. Il y a d'un côté comment finalement nous avons inventé ce qu'on pourrait appeler, enfin, ce qu'un historien a appelé, Jamie Linton a appelé l'eau moderne. C'est-à-dire que l'histoire de l'eau dans la modernité occidentale, c'est l'histoire d'un désenchantement progressif, telle sorte que finalement les génies des eaux sont remplacés par les ingénieurs, si l'on peut dire, de génies civils qui cherchent à en gérer les débits, de génies chimiques qui cherchent en gérer la qualité et la pureté au sens en fait du chimiste, ou aujourd'hui le génie environnemental qui cherche à voir en fait son articulation avec les milieux. Bref, donc l'histoire de la rationalité, c'est l'histoire de ce désenchantement, telle sorte qu'effectivement on ne voit plus dans l'eau du génie, hein, on y voit comment dire de la raison. Hein, donc bref, pour le dire autrement, au fond l'eau n'est plus intelligente, elle devient intelligible. Hein, et le rôle finalement en fait du savoir et des techniques, c'est dans notre modernité, c'est cela. Et pourtant, et c'est en ce sens-là, d'une certaine manière, qu'on pourrait dire que Bachelard est aussi en tout cas, son épistémologie n'est pas cartésienne. Bachelard n'est pas celui qui pense que la connaissance naît ex abrupto dans une intuition intellectuelle. Hein. Parce que la connaissance se déploie sur un fond d'expérience qu'il s'agira de combattre, ce qui est en jeu, c'est comment finalement sous la connaissance, la connaissance objective de l'eau est toujours, pour Bachelard, l'objet d'un combat avec tout ce qui l'investit en termes, effectivement, de réminiscence, de puissance onirique.
Alors, est-ce que ça veut dire que de même que dans la connaissance scientifique, l'intuition pouvait être un obstacle épistémologique, de même, dans la connaissance, dans l'approche poétique, alors la dimension scientifique objective peut être un obstacle à cette rêverie ? Ça marche dans les deux sens.
On pourrait dire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que dans le travail de Bachelard, le rapport en fait de la rationalité et de l'image est un rapport en fait en chiasme. C'est-à-dire que là où la science cherche à combattre les images comme des obstacles, inversement, il cherche Bachelard à montrer que dans la dimension poétique, il y a une logique des images. Autrement dit, que les images ne sont pas totalement irrationnelles et par conséquent, lorsque Bachelard va effectivement se tourner sur cette puissance en fait onirique de l'eau, il n'est pas dans l'irrationalisme. Hein, en tout cas, il ne renonce pas, en tout cas, à l'irrationalisme. Simplement, effectivement, il convoque ce qu'il appelle des partialités assumées, de certaine façon. C'est-à-dire que là où le travail de la rationalité appliquée, elle est de dire non aux images de l'eau un peu trop alchimiques, le travail, en fait, du poète, c'est, d'assumer non plus, ce n'est pas conquérir l'impartialité, mais c'est de travailler à la force des partialités qui nous disent le singulier, effectivement, d'une eau rêvée. Alors, effectivement, ici, le génie des sources ou de la rivière, si on prend le voyage de Chihiro ou les autres eaux dormantes ou mortes qu'il va analyser. Donc, chez Bachelard, par conséquent, la référence, au génie des eaux n'est pas une sorte de mystique, n'est pas une mystique de l'eau, même si on a pu penser qu'il y a un mystère de l'eau. Hein. C'est pas une mystique de l'eau, c'est effectivement une poétique, c'est-à-dire par conséquent une tentative de chercher dans la force des images de quoi dire la grammaire de notre expérience du monde, d'une certaine manière.
Et Bachelard a une conception très, très noire, très sombre de l'eau. Il le dit dès l'introduction dans L'eau et les rêves, il dit l'eau coule toujours, l'eau tombe toujours, elle finit toujours en sa mort horizontale. Dans d'innombrables exemples, nous verrons que pour l'imagination matérialisante, la mort de l'eau est plus songeuse que la mort de la terre. La peine de l'eau est infinie.
Oui, alors c'est le. Alors, en entendant ça, moi je pense aussi, mais dans un texte beaucoup moins mélancolique, à la poésie de Francis Ponge sur l'eau, où lui aussi en fait ne cesse de montrer en fait que la question de l'eau, enfin ce que l'eau, enfin ce qui la caractérise, c'est pas qu'elle soit inodore, incolore et sans saveur, hein, ou limpide, c'est effectivement sa chute. Hein, le fait qu'en permanence, de cette manière, travailler avec l'eau, c'est travailler à réduire sa chute. Eh bien, il y a chez Bachelard, probablement aussi dans la méditation de l'eau, une attention à cette chute d'eau, mais dans sa dimension ontologique. Hein, c'est-à-dire, Jean Libis, qui a beaucoup travaillé aussi sur Bachelard, avait mis en exergue, en valeur, en fait, les liens entre Bachelard et Schopenhauer, notamment, en fait, sur cette dimension justement de la mélancolie. Hein. S'il y a un trait qui caractérise finalement Bachelard, pour une part, c'est ce trait en fait d'une expérience en fait du monde qui n'est pas totalement une expérience heureuse et réconciliée. Hein. Et donc l'eau, de ce point de vue, dit cela. Donc autrement dit, c'est ça le peut-être qui peut nous tromper. Hein. Il y a une douceur, de l'écriture de Bachelard. Il y a une douceur un peu parfois qui relève de l'imagerie de sa voix et de son visage, mais qui est une douceur blessée, marquée effectivement par une expérience mélancolique du monde. Ce qui ouvre aussi, d'une certaine manière, sur le secret de cette philosophie, hein, qui s'est construite d'un côté effectivement sur un versant combattant, donc son épistémologie, hein, penser c'est dire non, donc une sorte de tonicité de la rationalité. La rationalité est une rationalité du combat, de la lutte, du saut d'obstacle. Et de l'autre côté, effectivement, une poétique qui explore en fait différentes manières d'être au monde, mais avec toujours une grande pudeur de cette philosophie qui ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est effectivement dans ces quelques bribes biographiques qu'on a lues, qui nous disent quelque chose de ce que c'est que bien-être. C'est que finalement, Bachelard, c'est celui qui nous apprend à bien penser, c'est celui qui nous invite à bien rêver et qui, entre les lignes, nous invite ou cherche en tous les cas à bien vivre, sachant le mal de vivre.
C'est paradoxal d'ailleurs, parce que finalement cet ouvrage qui ne porte pas le titre de psychanalyse de l'eau paraît à bien des égards beaucoup plus psychanalytique que la psychanalyse du feu, puisque les analyses qu'il fait des eaux dormantes, des eaux noyées, de la noyade, d'Ophélie, hein, tout un chapitre qui est consacré au complexe d'Ophélie, donc celle
de
Hamlet,
de Shakespeare,
qui se jette dans l'eau, qui se suicide. On y sent certainement une mélancolie, même beaucoup plus que ça, comme un appel des profondeurs, une attirance très forte de Bachelard pour cette noirceur, ce côté très très sombre. On a envie de le lire un peu comme lui-même se dévoilant à travers ces images et dans cette réflexion. Et c'est en cela que c'est comme une psychanalyse en acte, ce livre.
C'est vrai, et en même temps, c'est peut-être ce qui fait aussi que à la fois cette pensée reste pour une part opaque. Hein, il y a une sorte de secret Bachelard, effectivement, qui se livre toujours un petit peu à mi-teinte, et notamment effectivement dans son étude des complexes. Alors effectivement, alors c'est vrai que quand il parle du complexe d'Ophélie, il met plutôt l'accent sur ce qu'il appelle en fait les eaux désirées, même si elles sont désirées parce qu'elles sont une puissance en fait d'absorption et de dilution de soi, finalement dans un monde qui nous est parfois insupportable.
Et les eaux acceptées et les eaux désirées.
Voilà,
les eaux désirées, c'est Ophélie qui désire l'eau puisqu'elle désire la mort, et les eaux acceptées, c'est Charon.
C'est ça.
Et celui qui conduit la barque sur le fleuve de l'enfer.
Voilà. Et là, c'est un texte qui est assez intéressant, alors parce qu'effectivement, on l'a dit en commençant, Bachelard et plus l'homme des eaux, des rivières, des petites rivières, hein, des rues. Il n'est pas le philosophe des grandes traversées maritimes, mais au fond, quand il écrit sur le complexe de Charon, en fait, ce qu'il montre, et je trouve que c'est assez puissant, c'est que finalement, sous le souci en fait de traverser les eaux, y compris avec nos grandes croisières qui s'amusent pas toujours, en fait, ce qui est en jeu toujours pour lui, c'est que la puissance imaginaire du déplacement et de l'expérience de l'eau devance, comment dire, le souci technique de réussir le déplacement. C'est-à-dire que finalement, on a rêvé, comment dire, de traverser l'eau avant de pouvoir techniquement la, comment dire, la, y parvenir. Et ça, je trouve, c'est intéressant dans ce moment technicien qui est le nôtre, d'une certaine manière, où finalement notre puissance en fait de maîtrise technique de l'eau, comment dire, qui pour une part, enfin nous donne beaucoup de services. Hein, finalement, cette puissance technique nous fait oublier cette force, comment dire, de l'eau. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, aujourd'hui, l'eau est devenue une ressource qu'on gère, qu'on débite. Mais comment entendre la source sous la ressource ? Je dirais que Bachelard, c'est à ça peut-être qu'il nous invite. Hein.
Un malheur arrive toujours sur les talons de l'autre, tant ils se suivent de près. Votre sœur s'est noyée, Laerte.
Noyée ? Où s'est-elle noyée ?
Tout près d'un ruisseau, un saule se penche. C'est là qu'elle est allée pour tresser des guirlandes capricieuses d'orties, de boutons d'or, de marguerites, de longues fleurs pourpres. Et voulut-elle alors aux branches inclinées grimper pour accrocher sa couronne florale ? Un rameau perfide se rompit et Ophélie et ses trophées agrestes sont tombés là où l'eau pleure. Sa robe s'étendit et d'abord la porta un moment telle une sirène tandis qu'elle chantait des bribes de vieux airs. Inconsciente peut-être de sa détresse ou faite de naissance pour vivre ainsi. Mais que pouvait durer cet instant ?
Hélas ! Elle est donc noyée.
Noyée.
Tu n'as eu que trop d'eau déjà, pauvre Ophélie. Je proscris donc mes larmes. Le feu de ma parole voudrait flamber. Mais ces sottes larmes l'éteignent.
Tu t'en vas à la dérive sur la rivière du souvenir. Et moi courant sur la rive, je te crie de revenir. Mais lentement tu t'éloignes et dans ma course est perdue. Peu à peu je te regarde. Un peu du terrain perdu. De temps en temps tu t'enfonces dans le liquide mouvant. Ou bien frôlant quelque ronce tu hésites et tu en te cachant la figure dans ta robe retroussée, de peur que ne te défigure et la honte et les regrets. Tu n'es plus chienne crevée au fil de l'eau, mais je reste ton esclave et plonge dans le ruisseau quand le souvenir s'arrête et l'océan de l'oubli brise en nos cœurs et nos têtes à jamais nous réunissent.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h30 et c'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée à Gaston Bachelard. Et nous parlons, après le feu lundi et l'air hier, de l'eau. Aujourd'hui, l'eau et les rêves, c'est le titre du livre de Bachelard qui nous occupe aujourd'hui en compagnie du philosophe Jean-Philippe Pierron, spécialiste de Bachelard, auteur notamment des rêveries de Gaston Bachelard publiées aux éditions du Petit Platon et les puissances de l'imagination aux éditions du Cerf.
Ça vous est venu comment ? C'était une passion pour l'eau, pour la pureté, pour...
Une passion, oui, pour l'eau, parce que, et puis pour la nature aussi.
Oui.
C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il faut la protéger. Et puis l'environnement, ce qui nous entoure, il faut essayer de le préserver au maximum.
Vous contrôlez exactement qui, alors ? Parce que je crois que vous ne travaillez pas dans les entreprises.
Je m'occupe uniquement des stations d'épuration au niveau des communes rurales.
D'accord.
Voilà. Donc en fait, on vient effectuer des prélèvements. On réalise des prélèvements à l'amont et à la sortie de la station d'épuration.
Oui.
Ces échantillons sont ensuite analysés au laboratoire. Ça nous donne un rendu de la station d'épuration. Et puis ensuite, on fait des rapports qui sont envoyés au maire de la commune.
Oui.
Et puis,
alors on lui dit, dites donc, chez vous, c'est pas propre, ou chez vous, c'est propre, bravo.
Ça fonctionne bien ou ça fonctionne pas bien. Oui. Et on essaie de proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement de la station.
Alors Jean-Philippe Pierron, vous êtes également titulaire d'une chaire industrielle qui elle-même s'intitule « Rationalité, usage et imaginaire de l'eau » au pluriel. Et donc j'imagine que votre travail sur Bachelard et sur l'imagination n'est pas sans lien avec cette activité. On vient d'entendre un extrait qui, à premier abord, semble trancher en tout point avec la discussion que nous venons d'avoir sur Bachelard, que nous sommes en train d'avoir, surtout après l'extrait de la noyade d'Ophélie dans le Hamlet de Shakespeare et la chanson sublime de Gainsbourg, « La noyée ». Nous donnons la parole à une technicienne de l'eau qui raconte comment son travail se passe au quotidien. Dans quelle mesure est-ce que le texte de Bachelard fait une part ou permet peut-être utile, tout simplement, pour réfléchir à l'eau dans cette dimension-là en tant que ressource contemporaine avec les enjeux qu'on connaît.
Ce qui est effectivement, il y a un saut brutal hein, entre le complexe d'Ophélie d'un côté et ce qui nous ouvre ici en fait du côté des usages techniques et peut-être éthiques concernant l'eau. Mais en fait, ce saut, je crois que d'ailleurs Bachelard, en fait, il le permet aussi à sa façon parce que à chaque fois, ce qu'il cherche à remontrer, c'est comment ce qui mobilise les acteurs, c'est aussi les images qui les habitent. Hein. On pourrait le dire comme ça. Au fond, les grandes images qui nous habitent sont aussi des images qui nous habilitent. Et je dirais, en fait, c'est intéressant d'avoir entendu cette technicienne qui travaille sur les stations d'épuration parce que, finalement, en l'écoutant, on pense d'abord au travail de Bachelard, en fait, sur l'idée qu'effectivement, l'eau, c'est la figure de la pureté. Mais la pureté dont il parle en poète n'est pas la pureté ou la purification en fait que le traitement en fait des stations d'épuration cherche à y développer et donc autrement dit ce qui est en question c'est à un moment donné comment s'articule dans une même personne finalement ces deux éléments finalement de la pureté dans sa signification on va dire symbolique, c'est pas un mot qu'aime Bachelard, il préfère image que symbole, on pourra dire pourquoi la purification au sens technique et industriel du terme. Et là me vient le souvenir d'une thèse d'une ingénieure hydraulicienne qui a travaillé sur le Gange en Inde, hein, qui m'expliquait en fait que assez étonnamment les brahmanes en fait qui sont chargés des grandes stations en fait d'épuration le long en fait du cours du Gange savent que cette eau est éminemment polluée et pourtant vont faire leurs ablutions rituelles pour se purifier dans cette eau dont ils savent qu'elle est polluée. Autrement dit, cet écart entre la pollution au sens en fait du chimiste d'un côté et donc ou de la pureté au sens du chimiste et celle en fait de l'expérience alors ici religieuse mais plus largement en fait poétique interroge comment ça s'articule finalement dans une subjectivité. Mais plus encore, dans ce que disait en fait cette technicienne, je crois que une des premières portes d'entrée, avant d'aller peut-être sur les problématiques finalement presque écologiques qui sont attachées à la question de l'eau, hein, c'est le fait que tous les métiers. Bachelard, c'est le penseur des métiers. C'est pas le penseur du job ou le penseur de l'activité. C'est le penseur qui met l'accent sur l'idée que un métier nous met toujours au centre d'un univers, au centre d'une matière. Et en l'occurrence ici, les métiers de l'eau nous mettent effectivement au centre d'un univers particulier et d'un onirisme particulier, qui est ici celui, effectivement, des pâtes, du moins quand on est dans les stations d'épuration, les pâtes, les boues, avec ce qu'elles peuvent avoir à la fois de dégoûtant ou de visqueux. Et il y a donc chez Bachelard une rêverie, enfin un travail sur l'imaginaire, en fait, de la viscosité ou du pâteux. Il parle même parfois d'un, ce qu'il appelle un cogito pétrisseur, c'est-à-dire qu'en fait comment il y a une joie du pétrissage dont l'enfant se souvient, dont la, comment dire, le cuisinier ou le pâtissier peut se souvenir aussi, mais au fond qui est aussi présente en fait dans ce travail en fait des pâtes qu'on trouve dans les stations d'épuration. Et je trouve assez intéressant en fait cette proposition que fait Bachelard de dire finalement lorsqu'on réfléchit au fond sur l'organisation du travail, on devra avoir un bureau de l'onirisme de chaque travail. C'est-à-dire que finalement, si chaque travail est référé à une maîtrise particulière des matières, quel est l'onirisme, au finalement, qui le soutient. Et je crois que ça, c'est déjà une première piste. Et je dirais, c'est d'ailleurs probablement une des difficultés aujourd'hui des gens qui travaillent dans les métiers de l'eau, hein, c'est que le rapport à la matière eau, par les porteurs d'eau d'aujourd'hui, eh bien, est un rapport qui s'est éminemment distancié, parce qu'il est téléréglé. Finalement, l'eau, on y accède par le biais des canalisations, par le biais de tous les systèmes en fait, de contrôle, mais qui font que finalement, le puisatier d'hier, celui qui travaille dans les eaux usées ou potables d'aujourd'hui, la grande différence, c'est que cet onirisme, eh bien, il est enfermé, ou en tout cas, il est écrasé ou inscrit en fait, dans la maîtrise technique de l'eau. Et tout l'enjeu, il est là. C'est comment retrouver ce rapport de l'onirique dans l'hypertechnicité de nos systèmes industriels qui gèrent l'eau.
D'ailleurs, Bachelard ne parle pas de puisatier, mais de l'alchimiste. Écoutez-le.
Pour la norme de notre temps, une goutte d'eau souillée suffit à souiller une grande quantité d'eau. L'alchimiste pense exactement le contraire. Une goutte d'eau pure, pour lui, une goutte d'eau pure primitive, a la puissance de purifier une masse d'eau indéfinie. Le vieil alchimiste rêve sans fin à la fontaine de Jouvence. Si l'on avait la patience de colliger toutes les images, tous les symboles que les alchimistes ont multipliés sur cette eau permanente qui donne la vie, on verrait qu'elle fut et qu'elle demeure une sorte de substance d'espoir, une matière d'espérance.
Alors ici, Bachelard associe l'eau, la goutte d'eau pure, à une substance d'espoir, une matière d'espérance. Dans son livre « L'eau et les rêves », le chapitre 6 s'intitule « Pureté et purification, la morale de l'eau ». On voit ici qu'on sort du registre de la métaphore poétique pour aborder celui plus étonnant chez Bachelard, dont on sait moins où le situer, de la morale. Est-ce que ça veut dire que pour lui, est-ce que ça veut dire que dans cette optique-là, il permet de penser des enjeux qui seraient beaucoup plus politiques? Est-ce que c'est apprendre morale au sens large ou pas?
Alors ça, c'est toute la difficulté, hein, de lire Bachelard lorsqu'il écrit des choses de la sorte. Il écrira dans un autre ouvrage ici, enfin, donc dans L'air et les songes, en fait, qu'il y a ce qu'il appelle une imagination morale. Hein.
On en a parlé mardi.
Voilà, hier. Il utilise cette expression. Et donc, en fait, j'aurais tendance, alors c'est tout le travail de l'interprétation à ce moment-là, hein, j'aurais tendance à penser qu'il faut le prendre au sens fort, en fait, ce mot moral, mais pas au sens, en fait, du caractère moralisant, hein, du terme, ou au sens normatif de celui-ci, même si, de cette façon, à un moment donné, la question d'une eau souillée, d'une certaine manière, est pour Bachelard quelque chose de l'ordre d'un scandale. Hein. Il parle, en fait, de ceux qui viennent, finalement, salir les eaux. Il en parle en disant que ce sont des Attila des sources. Hein. J'adore cette expression, et en même temps, tellement effroyable quand on pense à ce que ça signifie parfois. Effectivement, donc parler en fait d'une morale de l'eau, je crois que ça dit quelque chose d'assez important sur la manière dont les images en fait étayent les acteurs, les agents moraux que nous sommes. Je précise un tout petit peu ce que je veux dire, c'est que quand on écoute Bachelard, comme on vient de le faire, on pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est que ce philosophe qui vient réhabiliter les alchimistes, qui fait revivre, comment dire, les génies des eaux, la fontaine de Jouvence, enfin, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe alors qu'il était rationaliste ? Enfin, il l'est aussi, il ne se renie pas. Et je pense qu'en fait, ce que cherche à faire Bachelard, c'est montrer que, effectivement, dans le contexte en fait, du travail de l'imagination, il y a une logique qui est certes plus celle de l'analogique que de la logique au sens aristotélicien du terme, par exemple. Il y a une logique des images, et que cette logique des images, en fait, elle est un levier puissant d'intelligibilité du monde, mais aussi un levier puissant pour les acteurs. C'est-à-dire que finalement, je le disais un tout petit peu tout à l'heure, trop vite peut-être, les images qui nous habitent sont des images qui nous habilitent. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire de certaine manière que, et c'est peut-être là la morale de l'eau, c'est que finalement, l'expérience des grandes images qui investissent nos histoires, nos biographies, nos éco-biographies, comme je disais tout à l'heure, eh bien, sont suffisamment présentes et prégnantes en nous pour, d'une certaine manière, tonaliser une manière d'être au monde. Et moi, j'aurais tendance à dire, au fond, que cette morale de l'eau, avant d'être de l'ordre de la moralisation, elle est d'abord plutôt une manière de revivifier, finalement, notre conatus, pour le dire comme ça, c'est-à-dire de revivifier, de ressolliciter en nous nos capacités, en fait, créatrices, de ce point de vue. Et je dirais, c'est là que ça peut être intéressant de convoquer Bachelard sur un terrain qui n'était pas le sien, et donc c'est probablement anachronique de le faire ainsi, mais j'aurais tendance à dire effectivement que ça peut être intéressant de convoquer Bachelard du côté de ce que j'appellerais une sorte d'éco-poétique. On voit très bien qu'aujourd'hui, dans la question de la protection de ce qu'on appelle la ressource en eau, on peut tenir plusieurs types de discours. On peut tenir un discours de la culpabilisation, c'est pas bien d'eux, il faut pas gaspiller. Il est pour une part nécessaire, sans doute. On peut tenir un discours de la catastrophe, stress hydrique, épuisement des nappes phréatiques. Je pense que c'est aussi nécessaire, mais c'est bien sûr, à mes yeux, pas suffisant, parce que de cette manière, ça ne mobilise pas les acteurs que nous sommes dans toute leur dimension onirique. Et Bachelard, de ce point de vue, pose ça. Je le dirais comme ça, au fond, c'est qu'une poétique de l'eau est peut-être le prolégomène à une éthique et une politique de l'eau. Et je crois qu'y être attentif, c'est interroger effectivement comment on la sollicite, comment on l'éduque, comment on la valorise.
Alors une des manières justement de solliciter cette attention, soyons bachelardiens jusqu'au bout, procédons par logique des images, c'est de passer tant par le texte que par l'image justement. Alors nous vivons dans une ère où effectivement la publicité a peut-être une place plus importante qu'à l'époque où Bachelard écrivait ses textes. Mais je vous propose d'écouter un texte de Paul Valéry, qui est en fait un texte qui était paru en tête d'une brochure édité par la Source Perrier. Sur la couverture, on voyait le dessin d'un verre d'eau d'où s'échappent des bulles et surmontées des mots « au gaz naturel ». C'est ce qu'on trouve dans la présentation de ce texte dans l'édition de la Pléiade. Écoutez ce texte, vous verrez en quel sens ici l'image qui est mobilisée est extrêmement évocatrice, extrêmement poétique et résolument puissante et efficace.
Parfois visible et claire, rapide ou lente, l'eau se fuit avec un murmure de mystère qui se change tout à coup en mugissement de torrents rebondissants pour se fondre au tonnerre perpétuel de chutes écrasantes et éblouissantes porteuses d'arc-en-ciel dans leur vapeur. Mais tantôt, elle se dérobe et sous terre chemine, secrète et pénétrante. Elle scrute les masses minérales où elle s'insinue et se fraye les plus bizarres voies. Elle se cherche dans la nuit dure, se rejoint et s'unit à elle-même, perce, transsude, fouille, dissout, délite, agit sans se perdre dans le labyrinthe qu'elle crée, puis elle s'apaise dans des lacs ensevelis qu'elle nourrit de longues larmes qui se figent en colonnes d'albâtre, cathédrales ténébreuses d'où s'épanchent des rivières infernales que peuplent des poissons aveugles et des mollusques plus vieux que le déluge. Dans ces étranges aventures, que de choses l'eau a connues. Mais sa manière de connaître est singulière. Sa substance se fait mémoire. Elle prend et s'assimile quelques traces de tout ce qu'elle a frôlé, baigné, roulé, du calcaire qu'elle a creusé, des gîtes qu'elle a lavés, des sables riches qui l'ont filtrée. Qu'elle jaillisse au jour, elle est toute chargée des puissances primitives des roches traversées. Elle entraîne avec soi des bribes d'atomes, des éléments d'énergie pure, des bulles de gaz souterrains, et parfois la chaleur intime de la terre.
Avez-vous vu la pub Perrier au cinéma, Jean-Philippe
Clairon? Oui, tout à fait.
Vous voyez donc de ce dont il s'agit. On a ces montgolfières qui sortent de l'eau, qui montent dans le ciel comme il se doit, parce que ce sont des montgolfières, où dans chacune de ces montgolfières, il y a des gens qui font la fête, qui jouent de la musique, et tout d'un coup, la caméra change de plan. On voit les montgolfières s'élever vers le ciel, qui deviennent des bulles de Perrier. Donc une femme boit la bouteille de Perrier, et on comprend qu'effectivement, les montgolfières étaient des bulles. On est ici exactement dans l'association poétique à laquelle procède Bachelard, en procédant par image et en essayant de montrer que l'eau a cette texture et ce mouvement particulier. En même temps, on est au service d'une publicité, et c'est extrêmement efficace.
Oui, alors c'est effectivement. Alors moi, je pensais aussi en écoutant ça, la fameuse publicité sur retrouver la vitalité qui est en vous, hein, d'un autre, porteur d'eau. En fait, je pense que ça interroge effectivement. Alors il y a plusieurs interrogations qu'il faudrait avoir. La première, c'est que effectivement, Bachelard, c'est le poète, des images, mais des images littéraires. Hein. Et là, effectivement, et c'est l'ambiguïté du mot image, on est plutôt effectivement des images en dimension en fait de plasticité. Hein. Mais si on laisse cette question de
mais c'est vrai, il n'est pas un grand défenseur des images visuelles. Voilà. L'image n'est pas forcément visuelle.
Voilà, c'est ça. Mais au-delà en fait de cela, en fait, je pense que je trouve ce qui est assez intéressant, c'est que Bachelard en fait cherche ce qu'il appelle lui les grandes images. Autrement dit, celles qui ont effectivement un coefficient, de tonalisation d'une manière d'être au monde. Et donc, ce qu'il traque, c'est pour ça qu'il n'aimait pas le mot symbole, notamment. Ce qu'il traque, c'est finalement ce qu'on pourrait appeler l'imagerie, c'est-à-dire que les images éculées, totalement, en fait, devenues stéréotypées, et finalement qui ne nous parlent plus parce qu'elles sont venues, elles sont devenues simplement de pauvres signaux. Hein. Je trouve l'exemple, la publicité choisie est intéressant pour ça, parce que je pense que la grande publicité, quand on réussit, un bon film publicitaire, et ça arrive de temps en temps, et c'est pour ça que c'est parfois aussi intéressant et plaisant de les regarder, je crois que c'est qu'on est allé au-delà, effectivement, du poncif, c'est-à-dire finalement de cette image qui ne nous dit plus rien, parce que finalement elle est devenue qu'un élément de signalétique, finalement, dans la gestion ordinaire du quotidien. Eh bien, le grand publicitaire, je crois qu'il est capable, effectivement, de renouer avec cette puissance, en fait, d'évocation de l'image, que, à sa manière, Bachelard cherchait à travailler du côté de la poésie. Et donc l'enjeu, alors, c'est comment finalement cette grande image, elle est pour une part anarchique, ou en tout cas, elle est une puissance de contestation du message qu'elle est censée servir. Hein. C'est tout le problème de comment le publicitaire construit des images pour nous, d'une certaine manière, nous inciter à la consommation, à acheter, mais comment en fait la publicité, lorsqu'elle est une grande publicité, si j'ose dire, en tout cas une grande, qu'elle a une grande puissance onirique, je crois qu'elle a elle se dépasse elle-même, telle sorte qu'elle devient elle-même une mythologie, pour le dire de la sorte. Alors c'est vrai, je crois que Perrier, ils ont réussi à faire ça, d'une certaine façon, de faire rentrer l'eau dans sa dimension mythologique, au moins au sens barthien, et peut-être mythique au sens durandien, et entre les deux, dans ce que cherche à y trouver Bachelard. Hein.
Venez, ô mes amis, dans le clair matin, chanter les voyelles du ruisseau. Où est notre première souffrance ? C'est que nous avons hésité à dire. Elle est née dans les heures où nous avons entassé en nous des choses tues. Le ruisseau vous apprendra à parler quand même, malgré les peines et les souvenirs. Il vous apprendra l'euphorie par le fuisme, l'énergie par le poème. Il vous redira, à chaque instant, quel beau mot tout rond qui roule sur des pierres.
Don't you think it's sad what's happened to the water? Our water's going bad. Oceans, rivers, lakes and streams have all been touched by man. Poison floating out to sea now threatens life on say.
Un grand merci Jean-Philippe Pierron d'être venu nous parler de Bachelard et de l'eau aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir aidé à dépoussiérer Bachelard, hein, comme vous nous disiez hors micro. En effet, on associe trop souvent Bachelard à une pensée un peu réactionnelle. Alors, on l'a vu aujourd'hui, elle peut être mise au service au contraire de la plus haute technologie et des médias contemporains. Je renvoie à vos ouvrages, alors Les puissances de l'imagination aux éditions du Cerf. On trouve aussi un article de vous dans Gaston Bachelard, Science et poétique, une nouvelle éthique. Point d'interrogation sous la direction de Jean-Jacques Vunenburger. Et puis, vous avez écrit un Petit Platon, la collection Petit Platon, les rêveries de Gaston Bachelard, qu'on trouve donc aux éditions Les Petits Platons. N'écoutez pas les Beach Boys qui vous conseillent de ne pas aller près de l'eau, don't go near the water, mais lisez Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, disponible par exemple au livre de poche. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore deux minutes, papillon, il est 10h51, c'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie.
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ».
Alors je sais bien, combien de fois a-t-on pu entendre cette phrase-là, Adèle ?
Beaucoup, je sais.
Mais on ne se lasse pas de l'entendre dire, de la lire et de la relire, et du coup de lire encore un essai sur Proust, comme c'est le cas ici du dernier livre de Nicolas Grimaldi. Encore un essai donc qui tente d'éclairer le mystère Proust, caché dès la toute première phrase de son œuvre. Mais c'est surtout un petit bijou, je le dis, parce qu'il réussit en une centaine de pages, non pas à résumer toute la recherche, mais à en donner une clé, celle de la psychologie de Proust. Tout part donc de ce baiser du soir, celui que le narrateur attend de sa mère chaque soir pour s'endormir, qu'il attend en vain, au point que cette absence creuse la réalité, la diffère et la journe sans cesse. Seule la sensation de ce baiser, le toucher, aurait pu restaurer la réalité, mais non, son absence a définitivement percé la réalité. Et là est le paradoxe de départ que décèle Grimaldi chez Proust, celui d'une réalité trouée, sans accès, peut-être, enfin sauf celui que permet le souvenir et surtout l'imagination.
Je me rendais compte de tout ce qu'une imagination humaine peut mettre derrière un petit morceau de visage comme était celui de cette femme, si c'est l'imagination qui l'a connue d'abord.
Voilà donc ce que permet l'imagination, mettre des choses derrière un petit morceau de visage, rendre présent plutôt que représenter, ressentir et raviver ce que l'on n'a jamais connu et que l'on ne connaîtra jamais. Il y a dans la psychologie proustienne cette manière de renverser Freud en fait et son inquiétante étrangeté, non pas rendre le familier énigmatique, mais faire de l'énigme le cœur même de ce qui nous est familier et sûrement de ce qui nous plaît. Alors que la séduction fleurit sur le mystère, rien d'original là-dedans, mais dire que nous n'aimons que ce que nous ne connaissons pas, que ce dont la réalité nous échappe, c'est autre chose. C'est un peu déprimant même, mais au moins j'aurais appris ça, ce tragique de l'amour, grâce à Nicolas Grimaldi. Je n'aime quelqu'un que si je décide de ne jamais le connaître.
À méditer. Merci en tout cas aux éditions Télème qui ont eu l'idée géniale de faire lire l'intégralité de La Recherche du Temps Perdu par d'excellents comédiens dont vous venez d'écouter des extraits, Géraldine.
Et merci aux éditions PUF pour cet essai de Nicolas Grimaldi, Le baiser du soir sur la psychologie de Proust.
Et merci à vous, Géraldine. Merci à vous, Jean-Philippe Pierron. Les nouveaux chemins touchent à leur fin. Pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite et fin, justement, de cette semaine consacrée à Bachelard, la rive rêvée également de Gaston Bachelard. Après le feu, l'air et l'eau, demain, ce sera la terre en compagnie de Julien Lamy. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales, cinématographiques concernant l'émission du jour. Vous pourrez également la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Une fois que vous êtes abonné, c'est rien de plus simple. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires.